Vous écoutez, on lit pour vous.
Effort climatique insuffisant de la part du Québec. Un texte d'Alexandre Shields paru le 3 juillet 2024 dans Le Devoir. Malgré le discours rassurant du gouvernement Legault, le Québec n'est pas sur la voie d'une réduction suffisante des émissions de gaz à effet de serre pour respecter ses engagements climatiques, conclut le comité consultatif sur les changements climatiques. Il plaide donc pour un virage vers la sobriété énergétique, une hausse de la tarification carbone et des mesures contraignantes pour s'attaquer avec ambition à la crise. Le message inscrit dans ce nouvel avis indépendant soumis au ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, lance un appel très clair au gouvernement. Le niveau d'ambition du Québec doit résolument s'accroître si on veut se donner une chance de réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre, GES, et transformer la société québécoise afin de faire face au dérèglement du climat. Les experts mandatés pour conseiller le ministre rappellent que les politiques climatiques du Québec n'ont pas entraîné une décarbonation à la hauteur des défis climatiques. Ils précisent qu'entre 1990 et 2021, les émissions de GES du secteur des transports routiers ont augmenté de 16 %, tandis que les émissions totales sur le territoire du Québec n'ont diminué que de 9 %. Qui plus est, elles ont augmenté en 2022 par rapport à 2021. Bref, à l'heure actuelle, les efforts restent insuffisants et la fenêtre pour atteindre nos objectifs de décarbonation se réduit tous les jours. Président du comité consultatif sur les changements climatiques, Alain Webster fait ainsi valoir que les émissions sur le territoire du Québec ne sont pas en ligne avec les recommandations des organisations internationales comme le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ou l'Agence internationale de l'énergie, mais aussi que la trajectoire vers la décarbonation complète d'ici 2050 deviendra de plus en plus exigeante si nous n'accélérons pas les efforts. Les scientifiques qui ont rédigé ce sixième avis du comité depuis sa création en 2021 préviennent d'ailleurs que la baisse des émissions de GES devra être abrupte d'ici 2050 pour atteindre la carboneutralité. À titre d'exemple, entre 2022 et 2030, la réduction des GES doit atteindre au moins 3,2 millions de tonnes par année, soit l'équivalent de retirer 1,3 million de voitures à essence de la route. Pour y parvenir, les experts plaident pour la mise en œuvre de changements structurels dans notre société afin d'enclencher le processus de décarbonation qui passe par un virage vers la sobriété énergétique. Il cite comme exemple, encore une fois, le besoin de revoir l'aménagement du territoire et de densifier les villes, mais aussi de développer des transports collectifs et actifs afin de réduire le besoin de déplacements individuels motorisés et donc le nombre de voitures. Le comité constate aussi que le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES, le marché du carbone, et les diverses mesures d'écofiscalité n'ont pas donné un signal de prix suffisant pour induire sur le territoire québécois la réduction nécessaire des émissions de GES. Ils invitent donc, notamment, le gouvernement à hausser le prix du carbone afin d'envoyer un message en faveur d'une transformation suffisante des modes de production et de consommation. Besoin de mobilisation. Dans leur avis au ministre Charrette, les spécialistes des questions climatiques évoquent aussi l'idée d'un budget carbone tenant compte des cibles de réduction des GES comme cela existe en France et au Royaume-Uni, qui permettrait un recalibrage de l'action climatique si les objectifs ne sont pas atteints. Malgré une sensibilisation grandissante aux enjeux climatiques, les actions du gouvernement n'ont pas permis de mobiliser l'ensemble des actrices et des acteurs de la société dans un engagement à la hauteur de la crise, soulignent par ailleurs les membres du comité consultatif. Il cite comme exemple le dernier baromètre de l'action climatique qui révèle que, même si plus de 3 personnes sur 4, 77 % estiment que le Québec a la capacité d'agir contre les changements climatiques, elles sont beaucoup moins nombreuses, 38 % à croire qu'il agit efficacement. Cet écart est susceptible de nourrir de la colère et de la frustration, voire du découragement au sein de la population québécoise, souligne le comité. Une part de plus en plus importante de la population déclare justement ressentir de l'impuissance, 68 %, une augmentation de 6 points de pourcentage depuis 2021. Pour mobiliser la population, de nouveaux récits sont attendus, priorisant la sobriété, soulignant notamment les bénéfices nettement supérieurs de l'action climatique par rapport à l'inaction et rappelant que des objectifs ambitieux peuvent encore être atteints si l'on agit dès maintenant, souligne Valériane Champagne-Saint-Arnaud, membre du comité et professeure adjointe au département de marketing de l'Université Laval. Le Québec est un des États les mieux placés pour effectuer la transition. Nous avons donc un devoir d'exemplarité, fait par ailleurs valoir Alain Webster, en rappelant que les conséquences environnementales, sociales et économiques du dérapage climatique seraient énormes. Mais que le Québec réduise ou non ses émissions de GES, il doit impérativement mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour faire face au dérèglement climatique planétaire, affirme M. Webster, qui cite le besoin de verdissement des villes, mais aussi la protection des écosystèmes naturels. La lenteur des États à agir pour réduire les émissions de GES risque de provoquer un réchauffement qui dépassera facilement les 4 degrés centigrades dans le sud du Québec, bien avant la fin du siècle, prévenait récemment le groupe d'experts en adaptation au changement climatique mandaté par le gouvernement Legault. 257 millions de tonnes de GES à cause des feux de 2023. Selon des données inscrites dans l'avis publié mercredi 3 juillet 2024 par le Comité consultatif sur les changements climatiques, les feux de forêt d'ampleur inégalée qui ont frappé le Québec en 2023 ont émis une quantité historique de carbone dans l'atmosphère, soit 257 millions de tonnes d'équivalent CO2. Les changements climatiques affectent par ailleurs le potentiel de séquestration du carbone de la forêt boréale québécoise qui risque de se trouver à un point de bascule. Selon le bureau du forestier en chef, le carbone séquestré dans l'ensemble des unités d'aménagement forestier est de l'ordre de 22 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Plus d'un pour cent de ce stock énorme de carbone aurait brûlé au cours de la seule année 2023. Les changements climatiques ont plus que doublé la probabilité de la survenue des conditions météorologiques extrêmes vécues au printemps et à l'été 2023. Un vaste chantier visant à favoriser l'adaptation de nos forêts est ainsi requis, souligne le comité. C'était Effort climatique insuffisant de la part du Québec, un texte d'Alexandre Shields paru le 3 juillet 2024 dans Le Devoir.
Des capsules temporelles pour ne pas oublier les personnes disparues ou vivant avec le VIH-SIDA. Un texte d'André Constantin Passiour paru le 22 mai 2024 dans le magazine Fugue. Même s'il y a de multiples congrès sur le VIH-SIDA, qu'il y a à Montréal et ailleurs, dans la province, des cliniques spécialisées en traitement du VIH-SIDA et que de nombreux livres ont été écrits à ce sujet, entre autres, les nouvelles générations ne sont pas nécessairement au courant de cette épidémie qui a fait des ravages dans les années 1980-1990. Avec pour objectif de ne pas oublier ce passé et cette vague de décès d'hommes gays principalement, Denis Cormier-Piché, en collaboration avec les Archives gays du Québec, AGQ, relance le projet de capsule temporelle VIH-SIDA, récit longtemps tu. Les gens séropositifs ou leur entourage pourront ainsi témoigner et ces récits seront conservés pour 25 ans, soit jusqu'à l'ouverture de ces capsules temporelles. On vous en avait déjà parlé en janvier, alors qu'on avait lancé presque confidentiellement ce projet-là. Mais voici que, grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral, on peut relancer ce projet de capsule temporelle de manière plus soutenue, de dire Pierre Pilote, le coordonnateur des AGQ. L'idée m'est venue d'une affiche au Parc de l'Espoir durant la 24e conférence internationale du SIDA qui se tenait à Montréal en juillet 2022, explique Denis Cormier-Piché, qui est gouverneur de la Fondation Émergence depuis 2016. Il y a plein d'histoires privées de gens qui ont vécu la période du SIDA, qui ne l'ont jamais révélée, ou des gens de l'entourage de personnes qui en sont décédées. Tous ces gens peuvent ainsi témoigner. Mais pourquoi cette prescription de 25 ans? Pourquoi attendre jusqu'en 2047 pour dépouiller ces capsules-là? Par pudeur? Par respect? Parce que certains ne l'ont jamais dit à leur famille, à leurs parents, etc. C'est pour libérer la parole, simplement. Il n'y a pas ici de question légale ou technique, juste pour libérer la parole, que les gens témoignent et je sais qu'il va y en avoir tellement. Parce que cela peut être aussi émouvant pour une personne de le faire. C'est un devoir de mémoire pour ne pas oublier ces personnes-là. Ce sera très touchant, c'est sûr, poursuit Denis Cormier-Piché, qui intervient aussi sur différents projets en lien avec les réalités de SLGBTQ+, à l'UdeM, Concordia, l'Université Laval, l'INRS et à l'INES, Table de santé numérique. Et qui pourra ainsi avoir accès à de tels documents? Tout le monde pourra y avoir accès. Le public en général qui s'intéresse à cette question. Des médecins, des étudiants, des chercheurs, des auteurs aussi peut-être, etc., souligne Denis Cormier-Piché. On veut que ce soit disponible à un public le plus large que possible à ce moment-là. Comment ce projet-là peut-il intéresser particulièrement les archives gays du Québec? Nous avons trouvé que c'était un bon projet parce qu'il rentre dans notre mandat de récolter des archives sur le passé des communautés LGBTQ+. Nous appuyons totalement Denis Cormier-Piché dans ses démarches pour faire connaître ces capsules temporelles et faire participer les gens pour ce devoir de mémoire, indique pour sa part Pierre Pilote. Je remercie les archives de m'avoir choisi pour travailler sur cette initiative, dit Denis Cormier-Piché, qui avait proposé ces capsules l'an dernier et qui a planifié les diverses étapes. Pour participer, la formule est très simple. En fait, c'est tout ce qui peut rentrer dans une enveloppe numéro 10. 9 pouces et demi, 24 cm par 4,25 pouces, 10,5 cm, c'est-à-dire des poèmes, des textes, des dessins, photos, images ou clés USB, supports numériques, vidéos, etc. Cette idée m'est venue du ministère de la Justice, alors que dans un procès, on peut présenter quelque chose à la cour. On va alors ouvrir une telle enveloppe pour y lire son contenu. En même temps, tout le monde peut utiliser une telle enveloppe, donc ce n'est pas compliqué, rajoute Denis Cormier-Piché. Pour l'envoi, tout est inscrit sur le site web des AGQ. Dans le cadre de Fierté Montréal, au mois d'août prochain, les archives proposeront 4 soirs de projection au Parc de l'Espoir, au coin de Panay et Sainte-Catherine. Grâce à une subvention du patrimoine montréalais, on projettera essentiellement 3 sujets. Les manifestations d'ACT UP Montréal, des affiches de prévention du VIH-SIDA, ainsi que des citations. Lors de ces soirées, 2 personnes des AGQ seront sur place pour distribuer également du matériel sur les capsules temporelles et encourageront les gens à y participer, rajoute Pierre Pilote. Ce matériel sera également offert lors de la journée communautaire de Fierté Montréal au kiosque des archives le samedi 10 août. Mais tout cela est conditionnel en tenant pour acquis que les archives gays du Québec existeront encore dans un quart de siècle pour l'ouverture de ces enveloppes. Sinon, qu'arrivera-t-il? On pourra potentiellement les léguer à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, qui en prendront possession et n'importe qui pourra y avoir accès dans 25 ans si les AGQ ne sont plus là, croit Denis Cormier-Pichet. Éventuellement, d'autres activités reliées à ce projet seront dévoilées. Il faudra surveiller les détails sur le site web des AGQ. Info. Si vous décidez de participer à ce projet, on vous remettra un formulaire d'information et de consentement. Tous les détails sont à l'adresse suivante agq.qc.ca/capsule-temporelle-vih-sida/. C'était des capsules temporelles pour ne pas oublier les personnes disparues ou vivant avec le VIH-Sida, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 22 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Bonne chance, Scott Moe, une chronique d'Hélène Lequitte, paru le 5 juin 2024 dans L'eau vive en Saskatchewan. Le ton continue de monter entre la Saskatchewan et Ottawa. Alors que le premier ministre provincial, Scott Moe, s'entête à ne pas payer la taxe carbone, Justin Trudeau le met en garde contre d'éventuelles mesures disciplinaires de la part de l'Agence du revenu du Canada, ARC. Le bras de fer continue et le dialogue interprovincial sur les questions environnementales semble lui partir de plus en plus en fumée. Avoir une dispute avec l'ARC parce qu'on ne veut pas payer ses impôts n'est pas une position dans laquelle j'aimerais me trouver, a lancé en conférence de presse le premier ministre fédéral lors d'un déplacement en Ontario, voilà plusieurs semaines. De façon ironique, Justin Trudeau a même souhaité bonne chance à Scott Moe quant à cette démarche. Au passage, le premier ministre a tenu à préciser l'imperméabilité entre les deux entités que sont l'ARC et le gouvernement fédéral. L'ARC est une organisation indépendante qui sait très bien récupérer l'argent qui lui est dû auprès des Canadiens, des entreprises et maintenant des provinces, s'il le faut. Nous n'avons rien à faire en tant que gouvernement fédéral, a-t-il asséné. En somme, la loi, c'est la loi, et c'est la même pour tous. Mais brandir la menace d'un retour de flamme de l'ARC sera-t-il suffisant pour renverser la défiance quasi chronique dont font preuve certaines provinces de l'Ouest au sujet de la taxe carbone, et ce depuis plusieurs années? Même si la Cour suprême a tranché en faveur d'Ottawa en 2021, rien n'est moins sûr. Les discours populistes auxquels ont recours certains gouvernements conservateurs, comme celui de Scott Moe, de Danielle Smith, son homologue albertaine, ou encore de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, avec le fameux slogan « axe de taxe », tranché à coups de hache la taxe carbone, en disent long. Les conservateurs veulent faire la peau à la taxe carbone et du même coup convaincre les gens qu'ils paieront moins d'impôts si cette dernière est abolie. De nombreuses familles saskatchewanaises comptent sur cette redevance. À ce sujet, Justin Trudeau s'est voulu rassurant, précisant que les foyers ne seraient pas pénalisés, même si on ne sait pas encore comment ils comptent opérer. En parallèle, Scott Moe annonce depuis plusieurs mois que Sask Energy et Sask Power cesseraient de percevoir la taxe carbone sur le gaz naturel et l'électricité. Bref, les discours s'entrechoquent et la population se retrouve coincée entre l'arbre et l'écorce. Si la taxe carbone reste le cheval de bataille des conservateurs, elle est aussi un prétexte pour remettre sur la table des envies d'indépendantisme de la part de certaines provinces de l'Ouest. En attendant, il ne fait pas l'ombre d'un doute pour Justin Trudeau que ces luttes entre le fédéral et la Saskatchewan sont clairement idéologiques et incarnent un frein majeur à la lutte contre le changement climatique. Il accuse d'ailleurs les conservateurs fédéraux de bloquer un projet de loi visant à augmenter le complément rural de la réduction des émissions de carbone. En attendant, les feux ont déjà commencé en ce mois de mai. En Alberta, la municipalité de Fort McMurray est maintenue en alerte et reste aux aguets, prête à évacuer. La Colombie-Britannique ne fait pas exception. La forêt brûle et le dialogue climatique entre les provinces, pourtant indispensable, est plus que jamais à vif. C'était « Bonne chance, Scott Moe », une chronique d'Hélène Lequitt, parue le 5 juin 2024 dans l'Eau vive, en Saskatchewan.
Cinémagine se réinvente, une bouffée d'air frais pour la francophonie. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 25 mai 2024 dans le Franco en Alberta. Alors que la Société Cinémagine de l'Alberta célèbre cette année son 20e anniversaire, elle s'apprête également à faire peau neuve sous sa nouvelle direction générale. Cette transition offre à l'organisme l'occasion de renforcer son engagement envers la francophonie albertaine à travers une série de nouveaux projets. Séances mensuelles de projection de films dans les grandes villes de la province, festivals cinématographiques, camp de jour pour les enfants. La société sera beaucoup plus présente dans le paysage francophone de l'Alberta qu'elle ne l'était auparavant, promet son nouveau directeur général, Lionel Vialanex. Nous voulons créer des rendez-vous. Les nouvelles marques de commerce que nous avons lancées, c'est pour créer des habitudes, pour que les gens pensent à Cinémagine lorsqu'ils veulent participer à des activités familiales en français, raconte ce dernier. Depuis son arrivée en poste en décembre 2023, et grâce à la collaboration du conseil d'administration, un vent de renouveau souffle en effet sur l'organisme qui a pour mission de promouvoir la culture francophone par le biais du cinéma. En mars et en avril dernier, les résidents francophones d'Edmonton, de Calgary et de Red Deer ont eu, par exemple, l'occasion de visionner deux films proposés par l'organisme. Ces projections mensuelles, qui auront dorénavant lieu le premier samedi de chaque mois, visent à rassembler adultes et adolescents dans une atmosphère conviviale. Nous avons eu entre 60 et 160 personnes lors de nos dernières représentations. C'est beaucoup quand on y pense. C'est rare qu'on voit autant de gens lorsqu'on va au cinéma, même dans une représentation en anglais, laisse entendre le directeur général. Un vecteur culturel. Parallèlement, Ciné-Saison, une autre initiative lancée récemment par l'organisme, vise à réunir parents et enfants 4 fois par année autour d'un film francophone adapté à toute la famille. La première édition s'est déroulée avec succès, raconte Lorraine Wibina, une mère de famille qui faisait partie de l'assistance à Red Deer. 2 autres projections ont également eu lieu à Calgary, Edmonton et Lethbridge. On va voir des films en français toutes les fois qu'on peut. Ça garde le contact avec la langue, même si nous sommes en plein milieu d'une province anglophone, explique cette Congolaise d'origine. Ses enfants sont tellement emballés à l'idée de prendre part à ces activités qu'ils courent carrément pour y aller, souligne-t-elle. Ils adorent ça. Chaque fois, ils sont absolument ravis de regarder des films en français. En contexte minoritaire, les occasions de profiter d'événements culturels en français se font assez sporadiques, renchérit à son tour Nicole Lorrain, une franco-albertaine originaire de Fowler. « Je n'ai pas souvent l'opportunité de pratiquer mon français, sauf lorsque je participe à ce type d'événement, confie la spectatrice en rappelant l'importance d'une telle initiative. En quelque sorte, les films qu'elle découvre lors des activités organisées par Cinémagine sont devenus son seul ancrage pour garder sa langue vivante dans un contexte culturel, ajoute-t-elle. Habituellement, je n'écoute pas de films en français. Alors, ça me force à sortir de ma zone de confort. Cette représentation avait été organisée par l'Association canadienne-française de l'Alberta, ACFA, régionale de Red Deer, en collaboration avec Cinémagine, qui compte parmi ses partenaires réguliers le portail Immigrant Association, PIA, à Calgary, et l'Alliance française d'Edmonton. D'autres changements à venir. Deux autres projets verront également le jour dans les mois à venir, assure le directeur général de l'organisme. Un camp de jour pour les enfants à Calgary, Cinécamp, en route pour Hollywood, proposera, dès l'été 2024, une expérience immersive aux jeunes de 10 à 12 ans qui souhaitent s'initier à la création cinématographique. Parmi les activités prévues, les participants auront l'occasion de réaliser ensemble un court-métrage de 2 minutes. Ils apprendront à écrire un scénario, à préparer un plan de travail. On leur fournira du matériel de tournage professionnel, explique Lionel. Un festival cinématographique est aussi en cours de préparation pour célébrer les 20 ans de l'organisme. Ce projet devrait être reconduit annuellement par la suite. Le lieu et les détails sont encore en cours de finalisation et nous sommes à la recherche de partenaires. La tournée jeunesse, qui permet aux élèves des écoles francophones et d'immersion en Alberta de visionner un film en français en dehors des murs de leur établissement scolaire, a quant à elle repris ses activités en février et mars dernier, après une interruption en 2023. Nous avons rencontré 3500 élèves du sud de l'Alberta, Lethbridge, Medicine Hat, jusqu'au nord, à Grande Prairie, Fort McMurray, en passant par Saint-Paul, Canmore, Airdry, conclut Lionel. C'était « Cinémagine se réinvente, une bouffée d'air frais pour la francophonie ». Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 25 mai 2024 dans Le Franco, en Alberta.